Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les images de Paris sous les émeutes et le feu ont fait le tour du monde. Et après la violence, le temps des consultations, les représentants des partis politiques aujourd'hui, ceux des Gilets jaunes demain. L'ampleur du mouvement des Gilets jaunes en France semble avoir un retentissement ailleurs, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Durant le week-end, des manifestants se sont mobilisés en Hollande, y compris devant le siège du gouvernement à La Haye. Des manifestants ont revendiqué multiples, comme l'a constaté sur place Antoine Mouton.
La plupart des manifestants réunis devant le siège du gouvernement sont venus vêtus de gilets jaunes. Les Relleheisjes, comme on les appelle ici, réclament la démission du Premier ministre Mark Rutte. Selon eux, il ne serait pas assez à l'écoute de millions de Néerlandais qui peinent à boucler leur fin de mois. C'est en tout cas l'avis de Kees, 70 ans, et d'Angélique, 61 ans.
Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est de plus en plus grand. Je touche une pension de 640 euros par mois et je dois vivre avec ça, payer mes loyers. Pour me nourrir, je suis obligé d'aller à la banque alimentaire.
Nous avons pensé, ah tiens, il y a un mouvement en Europe pour entreprendre quelque chose contre les élites que nous avons portées au pouvoir. Nous trouvons ça super de poursuivre ce mouvement aux Pays-Bas. Nous sommes de simples citoyens qui souhaitons faire entendre notre voix de façon pacifique.
Même s'ils disent s'inspirer directement du mouvement des Gilets jaunes nés il y a quelques semaines en France, les Relleheisjes ne manifestent pas en priorité pour le prix de l'essence. Beaucoup ici, parmi les Gilets jaunes, se disent tout simplement opposés au gouvernement, et ce pour de multiples raisons, notamment le départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 67 ans et 3 mois pour les personnes nées après 1957, mais aussi une mutuelle très élevée, un minimum d'une centaine d'euros par mois, à laquelle s'ajoute une franchise de 385 euros, c'est-à-dire que les premiers 385 euros d'examen et de soins médicaux de l'année ne sont pas remboursés. Une vingtaine de manifestants portaient également des autocollants accusant la télévision publique néerlandaise de propager des fake news. En fait, les revendications sont très variées. Brenda, 37 ans.
Je pense que tous les Pays-Bas devraient être ici avec nous. Nous sommes tous contre tant de choses qui vont mal dans ce pays. L'immigration, l'assurance santé. Et les gens doivent travailler jusqu'au moment de finir dans un cercueil.
Grand nombre de manifestants se disent farouchement opposés à l'immigration et à la signature du pacte de Marrakech, le pacte mondial sur l'immigration de l'ONU. Ils craignent que ce pacte contraigne les Pays-Bas à accepter davantage de réfugiés. Des manifestations ont eu lieu dans d'autres villes, notamment à Nimègue et à Maastricht. Au total, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans le pays. En marge des rassemblements, au moins 3 manifestants ont été arrêtés. En revanche, beaucoup parmi les manifestants rejettent les violences qui ont eu lieu en France. Ici, aux Pays-Bas, ils le disent, ils veulent que le mouvement soit le plus pacifique possible. Même si pour l'instant, le nombre de manifestants est assez restreint, ces rassemblements font beaucoup parler d'eux dans un pays où l'on manifeste assez peu et très rarement. En quelques jours à peine, plus de 10 000 personnes ont rejoint un nouveau groupe Facebook des Gilets jaunes néerlandais. Et selon un sondage de ce week-end de l'Institut d'opinion Maurice de Hond, 34% des Néerlandais approuvent la naissance du mouvement des Gilets jaunes aux Pays-Bas. Une grande partie d'entre eux sont des électeurs d'extrême droite.
L'Europe veut se montrer exemplaire à la conférence mondiale sur le climat. Objectif zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. C'est désormais l'ambition affichée par la Commission européenne. Exemplaire, alors que les États-Unis ont déjà claqué la porte des accords de Paris et que le Brésil annonce qu'il va sans doute lui emboîter le pas. Au-delà des déclarations d'intention, il y a la réalité. Cette COP24 se tient en Silésie, dans le sud de la Pologne, la région des mines de charbon. La pollution responsable de 50 000 morts prématurées dans le pays, dont les villes se situent en haut de la liste des cités les plus polluées sur le continent. Le gouvernement essaie bien d'inciter les particuliers à ne plus se chauffer au poêle à charbon, mais cela ne fonctionne pas, comme a pu le constater à Katowice Thomas Giraudoux.
Dans une partie de sa cave, Grzegorz Pieczyk a aménagé une pièce fermée au fond de laquelle il entrepose son stock de charbon. 2,5 tonnes de minerai noir, c'est ce qu'il lui faut pour chauffer sa maison durant tout l'hiver.
Le charbon me coûte environ 2000 zlotys, moins de 500 euros par hiver. Ce n'est pas très cher. Et puis le charbon est extrait ici, dans la région, donc je ne suis pas dépendant d'autres pays. De toute façon, on peut brûler n'importe quoi dans le genre de poêle que j'utilise. Moi, j'y mets seulement du charbon, parfois du bois, mais d'autres personnes, plus pauvres, brûlent leurs déchets, tout ce qu'ils trouvent pour se chauffer.
Grzegorz ramasse quelques morceaux pour alimenter le feu à l'intérieur de son poêle à charbon. Le temps de le remplir, une épaisse fumée envahit la pièce et noircit les murs. Ce père de famille est conscient de la pollution qu'il génère. Il a tenté d'y remédier en bénéficiant d'un grand plan du gouvernement, Air Pur. 25 milliards d'euros d'ici 2029 pour aider les habitants à changer de mode de chauffage et à mieux isoler leur logement. Mais sur les plus de 9000 euros que Grzegorz devrait dépenser, un quart seulement est remboursé par l'État. Il a donc laissé tomber.
Le problème, c'est que les autres énergies ne sont pas forcément très sûres. Aujourd'hui, on n'a pas de garantie que le gaz sera encore accessible dans quelques temps, car il vient de Russie, et on a toujours des tensions diplomatiques avec les Russes. Donc pourquoi aller vers un mode de chauffage moins sûr ? Le charbon, lui, vient des mines polonaises. En plus, il faut que le prix soit acceptable, et le gaz coûte encore assez cher. Enfin, même si moi, je cessais de brûler du charbon, beaucoup d'autres personnes continueront à le faire. Donc la pollution va se poursuivre. Ça ne sert à rien d'agir seul.
La région de Silésie concentre près de la moitié des rejets de dioxyde de carbone et de particules fines de tout le pays. À quelques kilomètres de là, au centre des maladies cardiaques de Zabrze, le professeur Andrzej Lexton constate les conséquences dramatiques du smog sur la santé des habitants de la région. Chaque année, plus de 47 000 Polonais meurent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air.
Quand il fait plus froid, l'automne et l'hiver, les gens utilisent leur poêle à charbon. La pollution augmente et beaucoup plus de personnes viennent dans notre hôpital. Elles ont des problèmes à cause du smog et développent des maladies respiratoires, cardiaques, nerveuses. Toutes ne sont pas mortelles. Cela dépend notamment du type des substances absorbées. Certaines sont très nuisibles et provoquent des cancers. Nous avons fait des recherches ici au centre hospitalier. Quand le niveau de pollution est très élevé, le taux de mortalité augmente brutalement de 6%.
Pour se protéger des particules fines, les habitants de la région peuvent porter des masques. Ce jour-là, plusieurs militants en distribuent justement sur une place de marché de Katowice, la plus grande ville de la région. Alexandra, une étudiante.
C'est parfois difficile de respirer ici. Ça sent très mauvais, un peu comme de la fumée de peau d'échappement. C'est nocif pour notre peau. Même quand on ne porte pas de maquillage, parfois on rentre chez soi et on a beaucoup de poussière sur le visage. Des poussières qui circulent dans l'air.
Si cette étudiante est consciente du problème du smog, d'autres habitants sont beaucoup moins réceptifs, comme l'explique Sébastien, un des militants.
J'ai l'impression que la majorité des gens se disent que le smog n'est pas toxique ou que carrément il n'y a pas de smog à Katowice. Parce que cette ville a une grande histoire industrielle, des mines de charbon. Le smog a toujours été là, mais le gouvernement n'en a jamais parlé pendant des années. Et c'est pour ça que quand on parle du smog aux gens, ils ne nous croient pas ou alors ils disent que ça n'a jamais existé ici à Katowice et qu'il n'y en a pas aujourd'hui.
Patrick Biawas de l'association environnementale locale Bomiasto va à la rencontre des habitants pour qu'ils prennent enfin conscience du problème, mais les actions de l'État ne jouent pas vraiment en sa faveur.
En Pologne, nous avons un vrai problème avec ce que l'on appelle la fracture énergétique. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de changer leur mode de chauffage. C'est la responsabilité du gouvernement de les soutenir. Or, il y a un énorme fossé entre la propagande du gouvernement, ses promesses, et la réalité du terrain. Tenez, leur programme de soutien financier, eh bien les procédures pour en bénéficier sont si compliquées. Au début, les gens sont intéressés, mais à la fin, une majorité d'entre eux laissent tomber ou sont recalés parce qu'ils n'ont pas bien rempli leur dossier.
Et puis le gouvernement continue de soutenir financièrement et massivement les mines de la région de Katowice et ses près de 100 000 employés. Il y a quelques jours, l'exécutif a même annoncé l'ouverture de nouvelles mines, tout en promettant de développer des sources d'énergie alternatives comme le nucléaire.
Car carton rouge également en Serbie, où l'économie produit chaque année 80 000 tonnes de déchets toxiques. Dans le meilleur des cas, ces déchets sont envoyés dans l'Union européenne pour être traités. Mais cela coûte très cher et ce sera bientôt interdit. Dans le pire des cas, les déchets se retrouvent dans des décharges sauvages avec un coût environnemental maximum. Les explications de Simon Rico.
Ces derniers mois, plusieurs dépôts sauvages de déchets industriels toxiques ont été découverts en Serbie. Une sombre série qui a débuté fin décembre 2017 avec la découverte de 25 tonnes de dérivés de benzène et de benzole enterrés illégalement à Obrenovac, une commune située dans la grande banlieue de la capitale Belgrade. D'après les analyses en laboratoire, ces centaines de barils contenaient donc des substances cancérigènes très dangereuses tant pour l'environnement que pour la population locale. Or, le contenu de certains barils avait fui, ce qui laisse craindre que les nappes phréatiques aient été contaminées. Le propriétaire du terrain a été mis en examen et il risque une peine de 5 ans d'emprisonnement. Ce sont ses voisins, inquiets par le balai de camions, qui ont alerté les autorités. Très médiatisée, cette affaire a eu le mérite d'attirer l'attention de l'opinion publique sur un problème bien plus vaste, à savoir le stockage et le traitement des déchets toxiques. La Serbie ne possède en effet aucun centre pour leur retraitement et doit les transférer vers l'Union européenne pour un prix qui varie de 1000 à 3000 euros la tonne. Outre son coût, plus de 150 millions d'euros par an, cette solution n'est pas pérenne. À partir de 2020, il sera en effet interdit d'exporter des déchets toxiques vers les pays de l'UE. Sans compter que la Serbie est aussi confrontée à un autre problème, plus ancien, celui des déchets générés lors de la fermeture des usines yougoslaves, notamment dans l'industrie chimique et pétrolière. 300 000 tonnes de ces déchets historiques se trouveraient toujours sur ces sites abandonnés, sans aucune surveillance.
Et on passe maintenant au versant positif de la planète, avec des solutions scientifiques qui prennent soin de l'atmosphère. C'est le cas en Andalousie, en Espagne, avec la centrale solaire Gemasolar, une technologie de pointe qui permet d'emmagasiner l'énergie pour la redistribuer à la demande. Reportage sur place de Laetitia Dive.
Sur la route qui va de Cordoue à Séville, une lumière aveuglante provenant d'un champ surprend les automobilistes à des kilomètres, à tel point que certains ont parfois cru à une attaque martienne. Il n'en est rien, le faisceau lumineux n'est autre que l'énergie reflétée par des miroirs au cœur de la centrale Gemasolar. Pour pénétrer dans cette centrale, il faut montrer patte blanche et s'équiper. Ensuite, c'est Raoul Mendoza, le directeur, qui mène la visite parmi les 2650 panneaux solaires qui s'étendent à perte de vue, disposés en cercle autour de la tour centrale. Ils ont un rôle bien particulier.
Ces panneaux solaires captent la lumière du soleil et la renvoient vers un récepteur. Au niveau de ce récepteur, on trouve un fluide composé de sel fondu qui absorbe l'énergie de la radiation solaire et se réchauffe grâce à elle. Une fois qu'il atteint une certaine température, à savoir 565 degrés, ce fluide va vers un réservoir de stockage. Ce réservoir est très bien isolé, donc il y a très peu de pertes et l'énergie thermique reste donc stockée dans les sels fondus.
C'est cette capacité à stocker de l'énergie solaire qui fait de la centrale andalouse une exception. D'autres entreprises avaient testé le procédé avant elle, notamment aux États-Unis, mais elle est la première à avoir utilisé cette technologie pour commercialiser de l'électricité tout en pouvant s'adapter au marché. Car disposer de ce stock lui permet de produire de l'électricité à n'importe quelle heure de la journée.
Lorsqu'on veut utiliser cette énergie de jour comme de nuit, on envoie ces sels vers un système où ils réchauffent de l'eau. En raison de la chaleur, cette eau se transforme en vapeur. La vapeur déclenche ensuite une turbine qui est connectée à un générateur. C'est finalement ce générateur qui produit l'électricité.
Grâce à ce système, la centrale peut produire de l'électricité en moyenne 15 heures par jour en hiver et jusqu'à 24 heures par jour pendant l'été. Afin d'optimiser la captation d'énergie solaire, les panneaux s'orientent seuls vers le soleil. D'une superficie de plus de 100 mètres carrés chacun, ils fonctionnent en autonomie et on peut les voir bouger au fil de la journée. Assis devant un petit écran, Sylvestre est occupé à relever les températures des caméras thermiques qui se trouvent dans les cuves de stockage. Elles permettent d'éviter une éventuelle surchauffe.
Je vérifie que la température ne s'emballe pas, que tout fonctionne correctement. Parfois, il faut intervenir, mais c'est rare. Ça nous permet d'anticiper les problèmes.
Depuis son inauguration en 2011, aucun incident n'a été répertorié et la performance de la centrale a largement fait ses preuves. Rema Solar alimente actuellement des milliers de foyers en électricité.
On produit exclusivement pour le réseau électrique national espagnol. Après, le réseau espagnol peut exporter une partie de notre énergie hors du pays. Notre production varie chaque année en fonction de la météo, mais sur une année normale, cela équivaut à 80 gigawattheures par an. C'est suffisant pour approvisionner une ville d'environ 30 000 foyers.
Aujourd'hui, Rema Solar produit donc plus d'énergie et s'avère donc plus rentable que des centrales de même taille, mais qui ne disposent pas du système de stockage. Et tout cela de manière totalement écologique, puisque sa technologie lui permet de réduire considérablement les émissions de CO2.
On n'utilise pas de gaz, pas de combustion. Donc ici, les émissions de CO2 équivalent à zéro. En comparaison, une centrale thermique qui produirait la même quantité d'énergie que nous émettrait environ 30 000 tonnes de dioxyde de carbone. Au niveau environnemental, on ne peut donc pas faire mieux.
Et pour parfaire cette image de centrale 100% propre, les employés utilisent autant que possible les vélos mis à leur disposition pour circuler entre les différents points du site. Ici, tout semble donc avoir été pensé pour polluer le moins possible. Pourtant, selon Raúl Mendoza, il reste encore une marge de progression.
Nous avons une consommation d'eau qui n'est pas très élevée, mais qui peut encore être optimisée. Celle utilisée pour laver les panneaux solaires, par exemple. Tout est perfectible.
Certaines de ces améliorations ont d'ailleurs été intégrées au projet de centrale solaire qui sera prochainement inauguré à Ouarzazate, au Maroc. Développée par la même entreprise espagnole que Rema Solar, la centrale aura le même fonctionnement que sa grande sœur andalouse, tout en étant beaucoup plus performante. Les panneaux solaires seront plus nombreux, la tour bien plus grande et l'électricité sera donc produite en quantité autrement plus importante. Signe que le système utilisé par Rema Solar a de l'avenir.
On terminera enfin sur l'agriculture qui peut être aussi exemplaire. Le bio n'est pas réservé aux plus fortunés. Une petite commune de Turquie en a fait la preuve. Derrière cette réussite, il y a un maire communiste, le premier et le seul de Turquie. Récit signé Anne Andlauer.
En Turquie, comme ailleurs en Europe et dans le monde, les produits issus de l'agriculture biologique sont la plupart du temps considérés comme chers, et ils le sont en général, voire comme des produits de luxe, ou pire, comme une lubie de bobos écolos. Aucune chance donc que des haricots ou des olives bio soient accessibles à tous, qu'ils servent à financer des bourses d'étudiants pauvres et qu'ils soient associés à un parti communiste. Pourtant, tout cela est vrai et se passe en Turquie. En mars 2014, les 8500 habitants d'Ovacık, un village de la province montagneuse de Tunceli, dans l'est de la Turquie, ont élu à leur tête Fatih Mehmet Maçoğlu, candidat du Parti communiste. Pour cette formation au score dérisoire, 0,03% aux législatives, c'était une grande première et un cas unique jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'il s'est installé à la mairie, Fatih Mehmet Maçoğlu a mis en pratique sa première promesse de campagne, faire d'Ovacık un modèle d'agriculture saine et coopérative. Très vite, les villageois ont commencé à cultiver des pois chiches, des pommes de terre et des haricots bio sur les terrains publics d'Ovacık, soit 65 hectares, ainsi que du miel bio vendu sans intermédiaire directement aux consommateurs. L'affaire a fait beaucoup de bruit en Turquie, mais ce n'est que lorsque la coopérative a créé un site internet pour vendre ses produits à travers le pays que le succès est arrivé. Et avec lui, les premières boutiques Ovacık Doğal, Doğal signifiant naturel en turc. Cette année, la coopérative a ouvert deux enseignes à Istanbul, une à Ankara et à Izmir, et au moins trois autres boutiques doivent ouvrir d'ici quelques mois. Selon le maire Mehmet Maçoğlu, les clients sont séduits par au moins trois raisons qui ne s'excluent pas les unes les autres. Consommer des produits bons pour leur santé et bon marché, des produits de leur région pour ceux qui sont originaires de Tunceli, et des produits qui aident indirectement des étudiants dans le besoin. 78 d'entre eux ont reçu une bourse en 2017 et 200 cette année grâce aux revenus de la coopérative. Quant à Mehmet Maçoğlu, il espère continuer à développer son village en étant réélu aux prochaines élections locales en mars 2019.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.